La majorité des enseignants du public et du privé avaient fait le choix de dispenser leurs cours, marquant ainsi un premier jour de mouvement mitigé. À Yaoundé, les explications de Richard Onanena.
À l'école primaire de Mendon, dans le 6e arrondissement de Yaoundé, Edouard Issouma, enseignant en cours moyen 2, a respecté le mot d'ordre de grève et n'a pas dispensé des cours à ses élèves.
Le matin, nous venons, nous alignons les enfants, nous les faisons entrer dans les salles de classe et nous assurons uniquement la discipline, c'est tout. Nous n'enseignons pas.
Cependant, dans la plupart des établissements secondaires, publics comme privés, la grève a été peu suivie. Au lycée bilingue d'application de Yaoundé, par exemple, les cours se sont déroulés normalement. Cet enseignant qui a requis l'anonymat veut finir son programme dans les délais.
Je ne me sens pas concernée par cette grève des enseignants et je me dois de terminer mon programme avant mi-mai et je compte y aller demain.
Roland Assoy-Toga, secrétaire général du collectif des organisations des enseignants du Cameroun, reconnaît que le mouvement a connu un début timide, en partie à cause du manque de solidarité de certains enseignants.
Nous pensons qu'ils ont fait le mauvais choix, le choix de s'inscrire contre la profession et contre les réformes éducatives souhaitées.
Selon les syndicats, la grève a été suivie dans environ 40% des établissements à travers le pays. Le collectif maintient la pression pour les 3 prochains jours de grève, espérant une mobilisation plus forte. Les syndicats revendiquent un statut spécial pour les enseignants garantissant des meilleures conditions de travail et salariales, entre autres. Richard Onanena, Yaoundé. RFI.
Et puis on a appris hier la disparition du philosophe congolais Valentin Yves Moudimbe, devenu au fil de ses écrits l'un des intellectuels les plus considérés du continent. Beaucoup retiennent de lui son œuvre phare intitulée « L'invention de l'Afrique », ouvrage devenu incontournable en matière d'études africaines. La philosophe Nadia Yala Kisukidi se souvient.
C'est évidemment une grande tristesse. C'est un des grands philosophes contemporains. Un de ses livres très importants, en fait, qui a vraiment marqué le champ à la fois des études africaines, mais aussi de la pensée critique contemporaine, ça a été la parution de ce livre en 1988, « The Invention of Africa », l'invention de l'Afrique. C'est qu'il montre comment, en fait, l'objet africain a été inventé, a été construit par les savoirs coloniaux européens à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et un des enjeux de Moudimbe, c'est peut-on penser l'Afrique hors des cadres conceptuels, des images qui circulent dans cette bibliothèque coloniale. Peut-on produire un ordre africain du discours qui s'émancipe complètement de ces clichés qui ont contribué à fabriquer cette idée de l'Afrique.
La philosophe Nadia Yala Kisukidi, jointe par Alexandra Branjon. C'est à vous, Andréane Mellard.
Merci Nemo. Puis 7h43 à Paris, RFI, on passe au sport. Les sports avec Victor Missistrano ce matin. Bonjour Victor.
Bonjour Andréane, bonjour
à tous. À la une du basket d'abord aux États-Unis où le premier tour des phases finales se poursuit.
Oui, des playoffs de la NBA qui débutent parfaitement pour Pascal Siakam avec Indiana, auteur de 24 points et 11 rebonds. Le Camerounais a de nouveau terminé meilleur marqueur de son équipe. Les Pacers encore vainqueurs hier soir des Milwaukee Bucks, 123 à 115 malgré 34 points du grec Giannis Antetokounmpo. Avec 2 victoires en 2 matchs, Siakam et ses coéquipiers ont fait la moitié du chemin dans la série.
Nous devions leur mettre la pression. Nous savions qu'ils allaient avoir des temps forts. C'est une équipe solide. Il nous fallait rester ensemble et rester nous-mêmes. On a une mission à accomplir, donc on doit rester fidèle à ses principes à chaque match et sur chaque action. Le soutien des supporters a été incroyable pour ces 2 matchs. L'énergie de la salle, c'était fou. J'ai adoré vivre ça. Et désormais, on doit aller chercher ses victoires à l'extérieur. Mais oui, on apprécie énormément notre public.
Et la 3e manche de cette série aura lieu vendredi soir, cette fois sur le parquet de Milwaukee.
On entre aussi dans une phase décisive d'un autre championnat créé par la NBA, la Basketball Africa League.
Oui, les équipes encore en lice vont tenter de rejoindre les quarts de finale. Elles sont réparties en 3 groupes de 4. Après la conférence Kalahari au Maroc, place à la conférence Sahara au Sénégal. Le coup d'envoi, c'est ce samedi à Dakar. On y retrouvera les Angolais du Petro de Luanda, les Tunisiens de Monastir, Creole Star du Cap Vert et enfin la SC Ville de Dakar qui jouera donc à domicile. Pour leur première participation, les Sénégalais ne manquent pas d'ambition. Wahani Johnson Sambou a assisté à l'un de leurs entraînements.
Sous le regard attentif de l'ancien sélectionneur national Mustapha Gaye, les champions du Sénégal ne se font aucun cadeau à l'entraînement. À quelques jours de leur entrée en lice dans la Basketball Africa League, Pape Djibril Boy et ses coéquipiers sont déjà en mode compétition. Le meneur de 24 ans est impatient.
C'est une compétition où il y a beaucoup de grands joueurs et on va gagner en expérience et à la visibilité aussi. C'est vraiment une belle opportunité. Je me sens vraiment excité de jouer cette compétition.
Une excitation, mais surtout une détermination de champion pour aller chercher l'un des deux tickets qualificatifs directs au Final 8. Pour sa première participation à la balle, l'ASC Ville de Dakar veut imiter l'AS Douane, finaliste en 2023. Libas Lay Diop, coach de l'ASC, ne veut pas brûler les étapes.
Nous allons vers le premier tour. On focus sur ça. Notre objectif, c'est vraiment c'est d'aller au-delà de cette conférence. Maintenant, après ça, on va évaluer et voir nos chances.
Et pour ce faire, l'équipe dakaroise s'est renforcée avec des joueurs expérimentés comme les internationaux sénégalais Martar Gueye et Samba Dalifal, mais aussi l'excellent ailier nigérien Abdoulaye Haruna Amadou ou encore le meneur américain Will Perry, pour ne citer que ceux-là. Wahani Johnson Sambou Dakar, RFI.
Et puis je termine au Mali après plus d'un an et demi derrière les barreaux. Le président en exercice de la Fédération de football se serait vu délivrer une ordonnance de mise en liberté. C'est ce qu'indique la presse malienne. Mamoutou Touré Dibavieux est accusé de détournement de fonds publics, des faits supposés s'être déroulés alors qu'il était directeur administratif et financier de l'Assemblée nationale malienne.
Victor Missistrano pour l'Infosport. Vous revenez dans une demi-heure, Victor, un petit peu moins même.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et l'actualité de ce mercredi 23 avril nous emmène à nouveau à Rome, alors que le cercueil du pape François doit bientôt débuter son transfert de la chapelle de la résidence Sainte-Marthe vers la basilique Saint-Pierre, où il sera exposé jusqu'à vendredi soir. Des centaines de milliers de fidèles sont attendus. Les obsèques du souverain pontife décédé lundi matin sont prévues samedi et se dérouleront en présence notamment de dizaines de chefs d'État, parmi eux le français Emmanuel Macron, qui est attendu dans quelques heures à Madagascar, suite de la visite du président français dans l'océan Indien, après Mayotte, après l'île de la Réunion. Place maintenant à cette ancienne colonie française où il va être question justement du sujet mémoriel pendant cette visite, mais aussi de celui des îles Éparses, territoire encore français, riche en hydrocarbures, qui occupe une place stratégique dans le canal du Mozambique et que Madagascar revendique. En Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, radié de la liste électorale ivoirienne, la justice demande à la commission électorale de rayer le nom du candidat désigné du PDCI à la prochaine présidentielle, estimant qu'il n'avait plus la nationalité ivoirienne lorsqu'il s'est inscrit sur cette liste. Lui-même refuse fermement cette décision et affirme qu'il reste déterminé à porter les couleurs de son parti pour l'élection. Sur ce sujet, Namoury Dosso attend vos réactions pour notre émission Appel sur l'actualité à 8h10, temps universel. N'hésitez pas à vous exprimer au 33 9 693 693 70. Ce mercredi également, 9 morts dans une frappe de drone contre un bus, annonce du gouverneur de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, et cela alors que des négociations doivent reprendre aujourd'hui à Londres en présence d'une délégation ukrainienne, américaine et européenne, toujours dans l'objectif de trouver une issue au conflit en Ukraine. Le 28 mai prochain, la CDAO aura 50 ans, mais les festivités ont déjà débuté hier à Accra, au Ghana. Et depuis sa création en 1975 à Lagos, l'organisation ouest-africaine a fait beaucoup de chemin, mais elle vit en ce moment une période trouble marquée par le départ des trois pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso. Pourtant, le président du Ghana espère toujours convaincre ces trois pays de réintégrer la CDAO. Qu'en est-il dans la réalité? Pour en parler, Gilles Yabi est notre invité ce matin, le fondateur et directeur exécutif de Wati, groupe de réflexion ouest-africain. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Gilles Yabi, bonjour.
Bonjour.
Longue vie à la CDAO et à la solidarité ouest-africaine, a lancé hier midi le président ghanéen, John Dramani Mahama. Mais est-ce que la fête n'est pas gâchée par la sécession des trois pays de l'Alliance des États du Sahel?
Alors, il est certain que cela assombrit la célébration et la série d'événements qui vont commémorer ce 50e anniversaire. Mais je pense que cette conjoncture difficile n'empêche pas de regarder le chemin parcouru en 50 ans. Et je pense que vraiment la CDAO, c'est d'abord un projet, c'est une vision, une conscience de cette volonté collective de penser l'avenir ensemble.
Donc pour vous, cette rupture voulue par l'AES, ce n'est pas un coup mortel ?
Je ne pense pas. Je pense que déjà, il faut quand même regarder les faits. La CEDEAO, moins les trois pays de l'AES, du Sahel central, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est 12 pays. L'AES, c'est quand même trois pays. Donc il n'y a pas de comparaison en termes de nombre d'États membres. Et en plus, le gros poids lourd démographique et économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Le Nigeria fait toujours partie de la CEDEAO, de la même manière que le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont les deux autres pays les plus importants, autant sur le plan économique que sur le plan démographique.
Officiellement, les trois pays de l'AES ont rompu avec la CEDEAO en janvier dernier. Et malgré tous les efforts de médiation du Sénégalais Bassirou Diomaye Faye et du Ghanéen John Dramani Mahama, il reste inflexible. Pourquoi cette posture ?
Oui, alors pour l'instant, effectivement, on ne voit pas de signe d'ouverture du côté de ces trois États. Et je pense qu'il faut à nouveau chaque fois rappeler que le départ de ces États a été décidé par les chefs d'État de fait dans ces trois pays qui sont tous issus de coups d'État militaires.
Et ces ruptures n'ont pas été validées par des parlements élus de ces trois pays ?
Tout à fait. Évidemment, on aurait tout de même voulu avoir un point de vue des populations elles-mêmes lorsqu'une décision aussi importante est prise par des dirigeants à nouveau qui sont eux-mêmes issus de ruptures de l'ordre constitutionnel qui était en place.
En même temps, les trois pays de l'AES ne veulent pas couper tous les ponts. Ils espèrent par exemple que la liberté de circulation des personnes et des biens entre l'espace CEDEAO et le leur sera maintenue. Est-ce à dire que ces trois pays ont peur des conséquences économiques d'une rupture totale avec la CEDEAO ?
Il est évident que les corridors les plus importants de mouvement de population, justement en Afrique de l'Ouest, sont en fait ceux qui lient les pays du Sahel à leurs voisins côtiers. Un exemple, c'est la relation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, même le Mali et la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous avez beaucoup de résidents dans ces pays côtiers qui sont issus des pays du Sahel. Et donc, lorsque vous avez des années difficiles dans un pays, vous avez la possibilité d'amortir cette situation de crise par les mouvements des populations. Et donc, évidemment, les dirigeants des trois pays du Sahel sont conscients de l'impact qu'aurait, par exemple, la fin de cette liberté de circulation pour leur propre population. Mais cela étant dit, je crois aussi que du côté de la CEDEAO à 12, il est important de rester ouvert aux populations de ces trois pays du Sahel central.
Est-ce que du coup, on peut parler d'une demi-rupture, voire d'une fausse rupture ?
Non, je crois qu'on a quand même une vraie rupture dans la mesure où, formellement, ils ne sont plus membres de la CEDEAO et que cela a des implications concrètes. Je crois que ce qui doit se discuter lors de la réunion ministérielle à Accra, c'est justement, très concrètement, par exemple, où vont déménager les institutions et les agences spécialisées de la CEDEAO qui aujourd'hui se trouvent dans ces trois pays qui ne sont plus des États membres. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des fonctionnaires issus de ces trois pays ? Donc, on est quand même en face d'un véritable départ.
Du côté des pays de la CEDEAO à 12, la stratégie privilégiée a été celle du dos rond. On attend que l'orage passe et on espère que les trois pays de l'AES vont revenir à la raison. Mais apparemment, c'est une stratégie qui n'a pas marché, Gilles Yabi. Est-ce que certains pays de la CEDEAO à 12 sont tentés par des représailles aujourd'hui ?
Je ne pense pas qu'il y ait un état d'esprit de représailles. Ce qu'on peut entendre de la part de certains fonctionnaires à un niveau élevé au niveau de la CEDEAO et de la commission de la CEDEAO n'indique pas une volonté de représailles. Et donc, je crois que tout le monde réalise qu'on n'a pas intérêt, personne n'a intérêt à cette cassure. Donc je pense que l'état d'esprit reste celui de l'ouverture.
Gilles Yabi, merci.
Entretien avec Christophe Boisbouvier. RFI Matin, votre chronique matière première, alors qu'on observe un rétropédalage américain dans sa guerre commerciale avec la Chine, alors que selon les prévisions du FMI, le Fonds monétaire international table sur une croissance américaine bien moindre que ce qui était prévu. On s'intéresse ce matin à ceux qui vont profiter de cette guerre commerciale. Parmi eux, les grands exportateurs sud-américains de matières premières. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
Alors citons le Brésil, un géant mondial de l'agriculture et de l'élevage.
Oui, le Brésil est devenu ces dernières années une gigantesque ferme à ciel ouvert qui s'illustre aussi par sa production de viande et de bœuf en particulier. Ces cinq dernières années, le pays a aussi développé sa production de porc. L'année dernière, le Brésil a augmenté ses exportations de viande de 25%. Les tensions entre la Chine et les États-Unis ne devraient donc qu'augmenter un peu plus son poids sur le marché mondial. Car comme en agriculture, le Brésil a la capacité d'augmenter ses volumes et offre aussi surtout des prix très très compétitif.
Le Brésil est d'ailleurs un partenaire majeur de la Chine.
Oui, la moitié des exportations de bœuf brésilien partent désormais en Chine et dans l'autre sens, le bœuf brésilien représente aussi la moitié des importations chinoises. Le géant d'Amérique latine pourrait donc répondre demain à une demande plus importante de l'Empire du Milieu en cas de ralentissement de ses achats de viande aux États-Unis. Il y a cependant une inconnue et pas la moindre, c'est l'évolution de la demande chinoise. Le pays a baissé ses importations de porc mais a augmenté celles de bœuf. La Chine a donc toujours d'importants besoins. Mais Pékin a lancé une enquête sur les importations de viande bovine pour voir à quel point elles nuisent au secteur national. Les achats chinois à venir peuvent donc à tout moment être contraints pour des raisons politiques.
Le Brésil, qui ne compte d'ailleurs pas que sur la Chine, mais qui vise d'autres clients.
Oui, le Brésil a conscience qu'il doit diversifier son panel d'acheteurs. Lors de sa récente visite au Vietnam, le président Lula a conclu avec les autorités un accord sur le commerce de viande brésilienne. Le Brésil chercherait aussi à séduire le Japon et la Corée du Sud, acheteurs traditionnels de viande américaine qui pourraient avoir besoin de fournisseurs alternatifs dans les prochains mois. Le deuxième acheteur de viande brésilienne après la Chine reste en tout cas pour l'instant les États-Unis. Depuis 2 ans, les importations américaines de bœuf sont en effet supérieures aux exportations.
C'était Marie-Pierre Olfond. RFI comme chaque jour, un grand reportage de 20 minutes à écouter sur notre antenne. Aujourd'hui, direction un exercice inédit en grandeur nature de l'armée de terre française pour se préparer à la guerre de haute intensité. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'armée doit affiner et en même temps durcir sa stratégie. Alors, mercredi 26 mars dernier, le groupe tactique interarmé des troupes de marine s'est déployé au cours de cet exercice dans le centre-ville d'Angoulême, dans le sud-ouest de la France, pour une simulation de combat en milieu urbain. L'armée de terre française à l'heure de la guerre totale, c'est un grand reportage de Franck Alexandre. Tout de suite un extrait.
Henri Mar 25,
Marsouin. Du Centaure, il est plus vers l'est, hein, je crois.
Ouais, mais là, c'est bon. Celui que je t'envoie, il va être à jour.
Dernier jour de la manœuvre, hein, c'est ça?
Tout s'est bien passé. On a pu tester plein de procédures qui sont inhabituelles pour nous, en particulier le silence électromagnétique.
Département de la Charente, sous le couvert d'une bretelle d'autoroute, les troupes d'infanterie de marine ont établi leur poste de commandement.
Toutes nos communications émettent un signal. Et pour plus de discrétion, on a testé un nouveau dispositif, faire une bulle de silence, pour être le plus discret jusqu'aux approches d'Angoulême.
C'est l'exercice Balrit, la simulation d'une intervention de l'OTAN dans un conflit de haute intensité. 600 soldats en terrain libre. Obligation leur est faite de se diluer d'un chemin creux. Émerge une toile de char, le Jaguar de l'adjudant Max.
Tu démarres, Dédé ? Dis-donc. Il y a une situation de concours.
L'exercice, dans ses directives, essaye de coller le plus possible à la réalité actuelle, d'avoir des incidents les plus fidèles possibles. Effectivement, avec le commandement par subsidiarité, il y a de plus en plus d'autonomie au sein des équipages, au sein des chefs d'engin, etc. Et on fait une sorte de commandement par objectif. Moi, par exemple, je suis chef de peloton d'un peloton Jaguar. Et donc, quand je reçois mes ordres, je suis un peu plus décisionnaire. Je choisis mes itinéraires, je choisis mon articulation au sein de mon peloton, je choisis ce que je vais employer comme moyen pour arriver à remplir ma mission.
Il y a 2 gaz qui ont été dictés sur les rives est de l'Houmeau, donc de l'autre côté de la Charente. Le point de franchissement, il est miné. Pour l'instant, il y a le génie qui intervient.
Si chaque individu attend des ordres et des listes de tâches de la part de son supérieur, ça ne marchera pas, c'est impossible. C'est comme ça qu'on se fait déborder par l'ennemi.
Colonel Bignon, chef de corps du 1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême.
Chacun vient prendre sa bulle de responsabilité et d'initiative, jusqu'au dernier des soldats, qui lui, il sait ce qu'il doit faire, sans attendre que son chef lui dise « non, plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt sous l'arbre ». Il doit être autonome là-dedans, et ça c'est vraiment pour nous très important de faire ce genre d'exercice, parce que ça fait travailler tous les échelons de commandement.
Ce grand reportage à retrouver en intégralité aujourd'hui sur RFI à 19h40, temps universel, et sur notre application RFI Pure Radio.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
En 15 ans de conservatoire, elle n'a jamais interprété l'œuvre d'une femme. Et c'est ce qui l'a convaincue d'écrire une histoire féministe de la musique du Moyen-Âge au 21e siècle. Le livre s'intitule « Ni muse, ni groupie ». Chloé Thibault, qui l'a écrit, sera notre invitée.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amard. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.